Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Belinda Bosuma.
Des milliers de déplacés recensés dans la province du Tanganyika à la suite des inondations provoquées par la montée des eaux du lac Tanganyika. Bilan encore provisoire selon le gouvernement provincial. Entre-temps, le gouvernement dit s'organiser afin d'assister les sinistrés. Et puis cette mise en garde du chef de la province éducationnelle Nord Kivu 2 au chef d'établissement scolaire, nul ne doit percevoir les frais de participation aux différents examens de fin de cycle scolaire. Motif, le gouvernement prend en charge tous les frais de participation à ces épreuves. Et puis, le président Félix-Antoine Tshisekedi a clôturé sa visite officielle à Paris où il a rencontré son homologue français. Que retenir de cette première visite officielle du président Tshisekedi en France? Nous en parlons avec Christophe Mafuta, juriste et chercheur en relations internationales et diplomatie établi en France. À tous et à toutes, bonjour. Commençons par la province du Tanganyika. Plus de 28 000 ménages des déplacés sont recensés à la suite d'inondations provoquées par la montée des eaux du lac Tanganyika. C'est le bilan encore provisoire que dresse le gouvernement provincial. Selon le ministre provincial des Affaires humanitaires, son gouvernement s'organise avec les agences humanitaires pour délocaliser les victimes des inondations et les assister. Le point avec Paulin Munanga.
Le ministre provincial des Affaires humanitaires annonce que des pourparlers avec les agences humanitaires sont en cours à Kalemi pour la mobilisation des fonds afin d'assister les victimes des inondations. Bob Omoricho indique aussi que le consulat général de Belgique à Lubumbashi est préoccupé par cette situation et compte aussi apporter une assistance aux sinistrés. Le ministre provincial précise que des sites pour accueillir les sinistrés à Kalemi sont déjà identifiés. Il regrette cependant que la plupart des sinistrés ne sont pas prêts pour rejoindre les sites des déplacés. Il insiste sur le fait que seules les personnes qui vont accepter de rejoindre les sites bénéficieront de l'assistance. Signalons qu'en plus de 141 000 personnes déplacées dans la province du Tanganyika, il y a des milliers de maisons d'habitation, des centaines de salles de classe et des centres de santé qui sont soit inondés, soit se sont écroulés à Kalemie-Ville et dans les six territoires du Tanganyika, rapporte le ministre provincial des Affaires humanitaires. Kalemie, Paulin Munanga, Radio.
Du côté de l'Ituri, environ 30 déplacés sont morts ces deux derniers mois au site de Nyamusasi à Chomia, c'est à la plaine du lac Albert dans le territoire de Djougou. La suspension de l'aide humanitaire, le manque de médicaments et la difficulté d'accès aux champs sont les principales causes de décès dans ce site, déclarent les membres du comité de gestion. Ils demandent au gouvernement de restaurer l'autorité de l'État en vue de leur permettre de retourner dans leur village d'origine. Reportage de Isaac Remoyope.
La situation humanitaire des déplacés se dégrade aussi de Nyamusasi qui héberge plus de 20 000 personnes depuis la suspension de l'aide alimentaire. À cela s'ajoute le manque de médicaments au centre médical installé au site pour la prise en charge de ces sinistrés. Les patients qui sont transférés à l'hôpital général de Chomia disent n'avoir pas de moyens pour payer les soins fixés à 95 000 francs congolais. Conséquence, des cas de décès sont enregistrés chaque semaine dans ces sites. Selon ces gestionnaires, 10 déplacés sont morts au mois d'avril dernier contre 20 à mars, ce qui fait un total de 78 cas de décès enregistrés dans les camps depuis le début de cette année 2024, ajoute les mêmes sources. Cette situation est exacerbée par la difficulté d'accès aux champs dans les localités proches aux escarpements des monts blés qui sont occupés par des miliciens de la Codeco. Ces déplacés plaident pour le rétablissement de la paix dans la zone pour leur permettre de regagner leur milieu d'origine. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Je vous le disais en titre, au Nord Kivu, le chef de la province éducationnelle Nord Kivu 2, couvrant la région de Beni, Butembo et Lubero, met en garde les chefs d'établissements scolaires qui tenteraient de percevoir les frais de participation aux différents examens de fin de cycle scolaire. Il s'agit du test national de sélection, d'orientation scolaire et professionnelle, TENASOSP, de l'examen national de fin d'études primaires, ENAFEP, et de l'examen d'État. Selon Salomon Chaloumo, les frais de participation à ces examens sont déjà pris en charge par le gouvernement et aucun élève ne doit être chassé le jour de ces examens. Salomon Chaloumo, dans ses propos recueillis par Guylaine Kassassia.
c'est la suppression totale des frais des examens de temps, des frais du Tenasos et des frais de l'ENAFEP. Car ces frais sont déjà pris en charge par le Trésor public et cela sur la volonté du chef de l'État. Dans les écoles, nous avons ce qu'on appelle organes scolaires et ils sont instruits à ce sujet. Il y a des principes pour décaisser l'argent. Il y a des signatures qui doivent être là. Les banques sont déjà informées que les parents ne doivent plus payer parce que la majorité des parents qui ont payé, ce sont des parents qui se sont empruntés de gauche à droite. Et nous savons très bien que les parents n'ont pas de moyens de donner cet argent. Néanmoins, ils sont informés qu'ils doivent récupérer les paies qu'ils avaient déjà données parce que tout est déjà pris en charge par le Trésor public. Et c'est là sur la volonté du chef de l'État. Le 6 du mois de mai, on commence la hors-session. Donc du 6 au 18, on aura déjà terminé avec la hors-session. Nous demandons aux parents d'envoyer les enfants à l'école, de préparer les enfants aussi à ces examens. Et je crois que le problème aussi de refouler les enfants dans des centres des examens d'État appartient à l'histoire.
Entre-temps, en Ituri, nous apprenons que plus de 30 écoles primaires ne fonctionnent plus depuis 2022 dans le secteur de Banyalikilo, territoire de Djougou, secteur quasi occupé entièrement par des groupes armés, constat fait mardi par les notables de cette entité à l'occasion de la Journée nationale de l'enseignement. Selon des acteurs de la société civile locale, certaines infrastructures scolaires ont été incendiées ou saccagées par des miliciens. Conséquence, des milliers d'enfants n'étudient pas depuis environ 6 ans et se livrent à la délinquance. Où ont été intégrés des groupes armés. Ézéchiel Mousalia nous fait le point.
Des milliers d'enfants sont privés de leur droit de scolarisation depuis maintenant 6 ans dans plusieurs entités du secteur de Banyalikilo dans le territoire des Djougou. Certains enseignants ont été obligés de fuir leurs entités à cause des exactions à répétition des miliciens, meurtres, enlèvements des civils, pillages, incendies des maisons. D'après des notables de cette entité, au moins 35 écoles primaires du réseau catholique et protestant ne fonctionnent plus dans leur milieu. Parmi ces établissements scolaires, 19 ont été incendiés par des assaillants, 12 autres ont été détruits par des belligérants, notamment dans les localités de Mami, Maliakizungu, Agnolo-Kilou, Kaba, Wazabo et Itendei. La société civile locale déplore que son entité n'ait bénéficié du projet du gouvernement des 145 territoires pour la construction des édifices scolaires. Robert Basiloko, son président.
Presque tous les groupements qui avaient des écoles, maintenant ces écoles n'existent plus. Si des ONG crédibles là pouvaient venir voir dans quel état les écoles se trouvent sur améliorer quand même la qualité des écoles.
Signalant que 13 groupements sur les 15 du secteur de Banyalikilo sont actuellement sous contrôle des groupes armés avec une incidence sur la vie socio-économique de la population dans cette région. Bounia, Ézéchiel Mousalia, Radio Okapi.
Du côté du Maniema, l'Union nationale des travailleurs, UNTC section Maniema, recommande au président de la République, avec tout son gouvernement, de rétablir la paix dans le pays. Selon le secrétaire provincial interprofessionnel de l'UNTC, la guerre déstabilise toutes les institutions et sape le moral des travailleurs. Hassani Wakuja l'a dit hier, 1er mai à Kindu, en marge de la célébration de la fête du travail. On l'écoute dans ses propos recueillis par Florence Kizalunga.
Quand on thème du jour, paix et sécurité, gage de la promotion de l'emploi. Nous ne devons pas mettre en noir tous les efforts fournis par le président de la République et son gouvernement pour qu'il y ait la paix et sécurité qui est gage de la promotion de l'emploi. Mais actuellement, les travailleurs et agents de l'État recommandent que le gouvernement de la République démocratique du Congo met fin à la guerre qui déstabilise toutes les institutions du pays, affaiblit les consciences professionnelles des travailleurs qui voient le sang de leurs collègues couler chaque jour et prive l'entrée facile des investisseurs avertis. Que vos préoccupations lors de ces mandats vous accordés par le peuple fassent une différence par rapport au mandat passé. Les travailleurs et agents de l'État s'attendent à une amélioration des salaires décents indexés au taux des dollars. Les grèves répétitives des enseignants, ça met en cause l'honneur et la valeur du gouvernement.
Rendons-nous dans la ville de Beni, au Nord Kivu. La journée du 1er mai, bien que fériée, ne l'était pas pour les vendeurs des marchés de Kilokwa et Mayangos. Pendant que les bureaux et autres services publics sont restés fermés et les travailleurs au repos, les vendeurs étaient devant leurs étalages depuis le matin. Blaise Makasinandes les a visités. Voici son reportage.
Ce n'est pas l'ambiance d'une journée fériée qu'on rencontre au marché de Kilokoa et de Mayangose. Le marché est bien achalandé. Les vendeurs rivalisent d'ardeur pour attirer l'attention des clients. Jonas Kambale est vendeur de produits manufacturés. Ce tenancier d'une boutique au marché des Kilokoa justifie sa présence au marché par le manque à gagner qu'il peut enregistrer s'il enchaîne deux jours de semaine sans vendre ses produits.
Aujourd'hui, je suis obligé de venir vendre pour que la famille soit nourrie et que je réunisse l'argent qu'il faut pour payer le loyer. Nous vivons essentiellement des recettes quotidiennes. Déjà, dimanche, je n'ai pas ouvert ma boutique. Ne pas vendre aujourd'hui occasionnerait une perte pour mon commerce. Je ne suis pas un salarié. Ce sont les travailleurs des institutions publiques et structures privées bien organisées qui doivent se reposer.
Comme lui, de nombreuses vendeuses d'habits occupent leurs étalages. Mais aussi, pour prendre l'exemple du décor planté au marché des Mayangose, de nombreuses vendeuses de légumes, fruits et autres produits agricoles remplissent les étalages. Leur commerce, font-elles remarquer, est vital pour l'alimentation des différentes familles de Béni. Néanmoins, note-t-elle, ce 1er mai, elles vont clôturer les activités plus tôt que prévu. Béni, Blaise Makassi, Radio Kapi.
Restons en Nord Kivu, dans les villes de Beni et Butembo, mais aussi dans les territoires de Lubero et Beni. Le réseau pour les droits de l'homme, REDO, dénonce le faible effectif des agents de l'État payés par le trésor public, d'après le monitoring mené au sein des différents services, notamment l'administration publique, la santé publique, l'enseignement et les entreprises para-étatiques. Le REDO révèle que moins de 45% des agents publics sont pris en charge par l'État dans cette zone. Pire, il y a des agents recrutés localement qui ne sont pas reconnus par le ministère de la fonction publique. Le REDO plaide pour l'inscription de ces agents sur les listes de paie. Maître Muindo Wasivinwa revient sur les résultats de ce monitoring au micro de Blaise Makassi Nandes.
À l'occasion de la journée internationale du travail, le REDO regrette le grand nombre des agents de l'État au Grand Nord Kivu qui ne sont pas prises en charge par le trésor public. Puisqu'il y a eu un monitoring qu'on a mené au sein du secteur public, on a constaté que le nombre des agents mécanisés payés sont très moins nombreux par rapport à l'effectif de tous les agents que l'État utilise dans différents services au niveau de cette entité. C'est à cela que nous appelons toutes les autorités qui interviennent dans la question de mécanisation des paies des agents d'avoir une attention particulière au Grand Nord Kivu, comme c'est une zone où la population souffre. Les salaires décents, c'est un droit pour tout travailleur.
La gestion de la redevance minière accordée aux entités territoriales directement impactées par l'exploitation minière laisse à désirer, constat fait par l'Association africaine des droits de l'homme, AZADO, section du Haut-Katanga. Pour cela, cette ONG de défense des droits de l'homme outille les acteurs judiciaires du parquet de Lubumbashi, les gestionnaires des entités territoriales décentralisées et les membres de la société civile sur cette question pour que la redevance minière serve réellement au développement des entités. Des précisions avec Jean-Claude Baka, coordonnateur de la ZADO au Katanga. Il a été joint par Jean Gandou.
Cette gestion soulève des problèmes de transparence, de redevabilité dans sa gouvernance par les ETD. Et donc, comme cette situation a impacté le changement à la base à cause de la léthargie ou à l'absence des infrastructures de base, à la surfacturation des ouvrages, le détournement des fonds leur alloués a nécessité que nous puissions piloter ce projet. C'est en vue justement de promouvoir la transparence, la redevabilité dans le secteur minier pour assurer le suivi et la gestion des cas de corruption. Ces acteurs judiciaires capacités apporteront un changement significatif dans la réduction des cas de infractions assimilées à la corruption. Entendez par là le blanchiment des capitaux, le détournement, le trafic d'influence en vue d'engager des poursuites judiciaires sur ces délinquants fiscaux.
Actualité internationale. Nous sommes en Haïti. Le Conseil de transition a choisi mardi Fritz Belizère comme premier ministre. Cet ancien ministre des Sports, peu connu des Haïtiens, doit désormais former une équipe gouvernementale. Fritz Belizère a été choisi à la surprise générale pour remplacer le premier ministre intérimaire Michel Patrick Boisvert. Le nouveau chef du gouvernement haïtien a obtenu ainsi le soutien de 4 des 7 membres votants du Conseil de 9 membres, alors que d'autres membres du Conseil ont déclaré qu'il n'est le connaissait pas. Pour le président du Conseil de transition, il doit notamment trouver un consensus nécessaire pour un pays meurtri par la violence.
L'invité.
Que retenir de la première visite officielle du président Félix-Antoine Tshisekedi effectuée en France? Nous en parlons avec notre invité Christophe Mafuta, juriste et chercheur en relations internationales et diplomatie établi en France. Il est avec Cynthia Bachizi.
Christophe Mafuta, bonjour.
Oui, bonjour Madame Cynthia Nabizana.
Alors, le président de la République vient de clôturer sa visite officielle pour 2-3 jours en France. Il a rencontré les plus hautes autorités françaises. Un bilan de votre côté?
Non, alors, lorsque nous considérons déjà les relations entre Kinshasa et Paris, il ressort que l'année passée, déjà lors de la visite du président Macron à Kinshasa, dans son allocution, il a été un tout petit peu lourd, je dirais, dans ses déclarations par rapport à l'évolution de la situation à l'est du Congo et ses interpellations parfois envers le régime de Kinshasa. Mais cette fois-ci, il y a eu quand même certaines avancées, je dirais, dans l'expression de la France, dans la désignation, par exemple, du Rwanda comme étant un acteur majeur dans la crise à l'est du Congo. Et puis, le tour, en tout cas, diplomatique auprès des différents élus français dans l'Assemblée nationale et au Sénat, je trouve que ça a commencé quand même à porter certains effets visibles qu'on peut constater aujourd'hui, bien qu'il faut rester quand même tout de même prudent dans le monde des relations internationales, parce que voilà, tout ne peut pas se limiter à ce qui est dit aujourd'hui. Voilà.
Justement, le président Macron a parlé de ce double standard qu'il y a actuellement lorsqu'il s'agit de l'intégrité territoriale de la RDC, comparaison faite évidemment avec l'Ukraine. Aujourd'hui, certaines organisations de la société civile questionnent la sincérité de la France à ce sujet.
Oui, je dirais sur ce point-là, ce qu'a pu obtenir la RDC auprès de la France reste tout de même un peu mitigé, parce que la situation à l'est du Congo reste quand même très catastrophique. Vous voyez, lorsqu'on regarde le standard, la position de la France dans la situation, le conflit qui sévit actuellement sur le territoire européen entre la Russie et l'Ukraine, le vocabulaire va au-delà des simples mots, en fait. Il y a des actions. Alors, la République démocratique du Congo sort aujourd'hui avec un discours, une condamnation du Rwanda, mais je pense que la France aurait pu aller beaucoup plus loin.
Aller beaucoup plus loin, ça veut dire aller vers des sanctions?
Voilà, dans les sanctions, justement, c'est que la République démocratique du Congo attend aujourd'hui, parce que la France est aujourd'hui un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, et elle peut bien piloter en tout cas cette direction dans la sanction, la condamnation du Rwanda.
Il y a aussi un engagement ferme du président Tshisekedi sur les FDLR. Est-ce que on peut comprendre par là que la RDC est prête aussi à faire sa part?
De mon point de vue, cet engagement, vous savez, devait être une prémisse. Déjà, une prémisse très importante à l'action diplomatique de la RDC dans cette situation. Je pense que depuis plus de 30 ans, le Rwanda n'a pas arrêté d'évoquer cette question de sa sécurité pour laquelle il craint, considérant les FDLR sur le territoire de la République démocratique du Congo comme un danger, comme une menace pour sa sécurité. Donc je pense que sur le plan diplomatique, la RDC devrait avancer avec ses cartes pour prouver sa bonne foi déjà auprès des différents partenaires internationaux, présentant déjà sa capacité de pouvoir mettre fin à l'existence des troupes qui s'entraîneraient pour pouvoir menacer la sécurité d'un autre État. Et aujourd'hui, que le président de la République du Congo, le président Tshisekedi, qui vient aujourd'hui avec cet engagement, je pense que cela devrait se suivre par des actes concrets et qui pourrait aujourd'hui être brandi comme une carte qui pourrait en tout cas porter ses fruits dans les jugements des autres nations aussi, dans leur approche pour pouvoir aider la RDC à pouvoir trouver une solution diplomatique dans ces conflits.
L'aspect économique était aussi au cœur de cette visite, à côté du politique, du sécuritaire et de la diplomatie. Le président Tshisekedi a notamment rassuré les hommes d'affaires français quant au bon climat des affaires, histoire d'attirer des investisseurs français en RDC. Vous y croyez, vous?
Aujourd'hui, je pense que cet appel de phare que fait le président Félix Tshisekedi doit s'accompagner d'une certaine concrétisation. Vous savez, le climat des affaires ne suppose pas seulement des textes qui sont bien ficelés, mais il faut des hommes et des femmes qui soient capables d'appliquer et de faire fonctionner ce système. Et ça, ça reste encore un défi pour la République démocratique.
Christophe Mansouta, je vous remercie.
Merci à vous, madame. Merci.
Voilà, notre invité est juriste et chercheur en relations internationales et diplomatie. Il est établi en France. Il répondait aux questions de Cynthia Bachizi. Ainsi prend fin ce journal supervisé par Pele Kipela Mondo, Dieudonné Nyangasa à la mise en onde. Merci de rester des nôtres.